journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.
Africa. Le journal des auditeurs, c'est votre émission, bienvenue à tous, la parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, premier jour de l'année 2019 dans le JDA, l'occasion pour nous d'évoquer les temps forts, les défis qui attendent le continent africain. Que nous réserve 2019 sur le continent? Le paysage politique, économique et social va-t-il changer? Élections, conflits, enjeux climatiques et migratoires, sans oublier l'économie. Nous en parlerons avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Pour nous donner votre avis sur ce sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00. Le 01 55 07 58 00. Mais avant d'évoquer ce qui attend l'Afrique pour l'année 2019, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour les auditeurs d'Africa numéro 1 de par le monde. Je vous souhaite une très bonne année 2019 à tout le personnel d'Africa numéro 1 et à tous les auditeurs de cette chaîne. Je le souhaite aussi pour le directeur de la chaîne. Et surtout, je vous souhaite une très très bonne santé, une longue vie, la paix du cœur, une grande bénédiction financière et beaucoup d'amour. Je vous aime, Aurore.
Bonjour, amis de JDA, c'est M. Gabi. Je dis bonne année, bonne santé à tout le monde, à tout Africain et Africaine. Vraiment, ma pensée, Iva Stéphane Hartmann, vraiment, qui nous accueille toute l'année avec cette antenne. Quelle bonne émission qu'on a passée toute l'année ensemble, vraiment. J'ai dit bonne année à tous les amis des JDA, c'est M. Gabi. J'ai dit bonne chance la rentrée de Stéphanie, vraiment, qui nous accueille toute l'année. Je souhaite que bonne rentrée pour elle, vraiment. J'ai ma pensée pour elle aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Tout ensemble des Africains numéro 1, tous les journalistes qui nous donnent des bonheurs, vraiment, merci beaucoup. Amis des JDA, merci beaucoup. Tout ensemble de l'équipe des Africains numéro 1, les journalistes qui nous accueillent, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, c'est M. Gabi.
Oui, cher ami du JDA et M. Nadir, bonjour. Je me permets d'intervenir par rapport aux élections au Congo. J'émets des doutes sérieux et raisonnables pour ces élections. Comment peut-on dire qu'on peut proclamer les résultats le 15 alors qu'une partie sont reportées au mois de mars? Vraiment, j'ai des doutes sérieux et raisonnables. J'ai des inquiétudes. Voici ma modeste contribution pour cette cause. Je souhaite mes meilleurs vœux à tous les auditeurs. Bien des choses à tout le monde. Bien donné qu'à son goût. À très bientôt. Ciao, ciao.
Bonjour et bonne année l'Africa numéro 1. Le monde entier qui nous regarde, le Congo, comment on massacre les peuples. Silence absolu. Vraiment, je ne sais pas où on est, dans quel monde qu'un président, un gouvernement qui tue son peuple. Mais il y a tout le monde qui regardent et disent rien. C'est triste, vraiment, c'est triste pour le Congo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait au monde, vraiment, qui nous abandonne comme ça. Saddam Hussein, il a essayé de, soi-disant, tuer le peuple. Vous avez vu comment ils l'ont tué. En Libye, c'est pareil avec Kadhafi. Vous avez vu comment ils l'ont tué. Mais nous, Kabila, il tue les gens, il tue vraiment les gens, pourtant, tout le monde le voit. Mais le monde, silence absolu. Bonne année, merci. Au revoir et bonne journée.
Bonjour Africa numéro 1. Mon appel de ce matin est celui d'un Africain qui pleure. Qui pleure parce que l'Afrique, en tant que continent, ne dispose plus de dirigeants qui sont capables de défendre les intérêts des Africains. Je vous parle aujourd'hui en tant que Camerounais et en tant que francophone. Et en tant que Camerounais, les Camerounais ont élu M. Paul Biya à 70%, voire même plus. Et voici quelques jours, dans une ville comme Douala, il n'y a pas de lumière depuis 4-5 jours et les gens ne savent plus quoi faire. Mais comment dire que élire une personne comme Paul Biya et quelques mois après, on n'a plus de lumière dans son propre pays? Et c'est ce que je voulais dire. J'ai l'amertume. Je me pose la question que pourquoi l'Afrique mérite cela. Les dirigeants africains ne sont plus à la hauteur des tâches qui leur sont confiées. Bonne et heureuse année à tous les Africains et gardons le cap, l'avenir est devant nous. Merci et bonne journée.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui donc dans le JDA, les défis africains de 2019, 1er janvier, premier jour de l'année. Dans le JDA, l'occasion pour nous d'évoquer les temps forts, les défis qui attendent le continent africain. L'année qui s'est écoulée nous a tenus en haleine avec ses rebondissements et ses attentes déçues. Élections, conflits, enjeux climatiques, migratoires, sans oublier l'économie. Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, décrypte régulièrement l'actualité sur Africa numéro 1. Il est notre invité pour nous parler de ce qui attend le continent pour cette nouvelle année. Appelez-nous aussi, hein, chers auditeurs, dites-nous quels sont les principaux enjeux pour l'Afrique pour cette nouvelle année et ce que vous avez retenu également de l'année 2018. Emmanuel Dupuis, bonjour.
Bonjour aux auditeurs et bonne année à tous les auditeurs.
Bonjour Emmanuel, bonne année également. 2019 commence, 2018 s'est achevé. Alors vous, que retenez-vous de l'actualité africaine pour l'année 2018 ?
Évidemment, elle a été riche en rebondissements, comme vous l'avez évoqué. Elle a été marquée, comme nous l'attendions, d'un certain nombre de soubresauts électoraux. On s'attendait à ce que les élections en RDC se passe avec fébrilité, avec amertume d'une certaine façon. Ça a été d'ailleurs rappelé par un de vos auditeurs. Les mois précédents ont été marqués par d'autres élections emblématiques. Ça a de nouveau été mentionné par votre auditeur. Je pense aux élections, évidemment, d'octobre dernier au Cameroun, où le président Bolbia a rempli pour un septième mandat. Oui. On pourrait évidemment évoquer plus récemment les élections législatives au Togo du 20 décembre dernier, confirmant, me semble-t-il, oui, même si les résultats ne sont pas encore programmés, la stabilité ou du moins le maintien de la coalition gouvernementale autour du parti du président Unir, du président Faure Gnassingbé, et bien évidemment encore quelques jours à peine, les élections en Madagascar, qui là ont vu un rebondissement avec le retour de André Rajoelina, oui, le président de la transition, qui a chassé le président en sortant, ce qui montre, paradoxalement, que là où l'année 2018 a été marquée par une sorte de conservatisme électoral, oui, les présidents étant réélus, on peut avoir à l'esprit aussi les élections de juillet et d'août dernier au Mali, où le président Ibeka a été réélu pour un cinquième mandat, le président, oui, Paul Biya pour un septième mandat. Les élections à Madagascar sont venues un petit peu déjouer cette réalité. Donc des processus électoraux qui nous ont tenus en haleine, oui, et qui ont démontré d'une certaine façon que les élections ne sont pas, à l'exception, comme je le disais, de Madagascar, des éléments de changement, mais plutôt des éléments de conservation ou, oui, de conservatisme, pour ne pas dire de sclérose ou d'insuffisante capacité réformatrice, alors même que le processus électoral, oui, devrait être un moment où les forces politiques s'expriment, où la société civile est activée, où de nouveaux visages apparaissent et un nouveau leadership voit le jour. Donc je pense, en faisant le parallèle entre 2018 et 2019, oui, que les prochains processus électoraux, en tout cas je l'espère,
on va l'évoquer,
que ce soit,
oui, oui,
que ce soit en Sénégal ou au Nigeria en 2019, oui, soit aussi celui de l'émergence d'une société civile consciente, oui, une société civile de plus en plus active. On le voit avec des mouvements comme le Ballet Citoyen au Burkina, oui, ou Falumbi ou Lucha en RDC. Bref, une société civile qui s'organise et pour lequel, évidemment, il y a des convergences avec d'autres sociétés civiles actives en Europe ou ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais évoquer, cette forme d'attente déconvenue, si j'ose dire, par rapport aux processus électoraux. Oui. Le deuxième élément qui m'a marqué, moi, évidemment, concernant 2018, et je crains malheureusement que 2019 soit marqué sous la même enseigne, si j'ose dire, à la même, oui, enseigne, c'est évidemment la dimension sécuritaire, oui, qui, oui, obère la capacité de développement du continent africain, qui monopolise plus qu'il ne devrait les agendas des responsables politiques africains et bien évidemment des responsables politiques européens et occidentaux qui les aident, oui, par rapport à deux éléments, évidemment la question de l'insécurité environnementale, vous l'avez évoqué, oui, Nadia, oui, dans, oui, votre propos, et on voit bien qu'avec la COP24, rien n'est réglé, hélas, oui, et puis bien évidemment la question, l'ancrage l'enquistement, si j'ose dire, du terrorisme, oui. Non seulement dans la bande sahélo-sahélienne, mais dans ses marges, dans la Corne de l'Afrique, où il reste depuis une vingtaine d'années un problème pour la stabilisation donc dans la Corne de l'Afrique, notamment par rapport au djihadisme en Somalie, oui. Et puis bien évidemment avec des extensions en Afrique centrale, on le voit d'ailleurs avec la République centrafricaine, où malheureusement la question sécuritaire va oui. aussi impacter mmh. sur les prochains mois de la campagne préélectorale qui s'annonce pour 2021.
Alors Emmanuel, on va évoquer hein, dans le détail hein, les points que vous avez évoqués, mais tout d'abord nous avons un auditeur, Alassane. Alassane, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonne année à vous, bonne année à vos collègues et tout le monde.
Merci, merci également. On vous souhaite une très très belle année 2019 pour vous et vos proches, Alassane.
Merci beaucoup, monsieur. Donc, moi, monsieur Emmanuel, bonjour. Je suis quand même quelque part un Camerounais parce que j'aime ce pays, oui. J'aime vraiment les Camerounais.
Oui.
Parce que j'étais en 1979, donc oui. Ça ne me résonnait pas. Quand j'avais environ 20 ans,
oui.
Ce pays m'a accueilli bras ouverts.
Oui.
Et depuis, des nouvelles que j'entends, ça ne me rassure pas.
Oui.
Et je suis peiné, même si j'interviens pas sur ce sujet.
Oui.
Et Moussa, qui préside actuellement au Président du Cameroun, il était oui. déjà Premier ministre.
Oui.
En 79.
Oui, Paul Biya, oui, le président.
Oui, voilà. Et oui. Quand j'ai quitté au Sénégal, c'était une crise économique sans précédent.
Oui.
Il y avait les licenciements, il n'y a pas, les banques qui sont fermées.
Oui.
En tout cas, il y avait une crise économique sous Senghor. C'est pour ça que même il était parti.
Oui.
Mais quand je suis allé au Cameroun, tout le monde oui. vivait bien.
Oui.
J'avais l'impression
oui.
que je suis venu dans un autre pays qui n'est pas africain.
Oui. Oui. Alors, Alassane, qu'est-ce que vous retenez de l'année de 2018 et quels sont pour vous les principaux enjeux pour 2019?
2018, j'ai remarqué la montée des débits. C'est inquiétant. Moussa Faki Mohamed.
Oui.
J'ai remarqué l'absence de l'ONU. L'ONU, c'est pas oui. une communauté internationale. L'ONU fonctionne à travers les agences telles que le droit de l'homme parti par
d'accord,
là, c'est UNESCO oui. parti par là. Mais l'ONU politique, ça n'existe pas.
D'accord.
Il n'y a oui. plus un président américain, l'arbitre.
Oui.
C'est aucun pour soi. La montée d'Erdogan, la montée de Poutine et autres. Donc, c'est inquiétant, Comment vous voyez, comment vous expliquez, et quelles sont vos analyses pour les Africains? Parce qu'on voit la montée de Déby qui, disons...
Oui, le président Déby, vous voulez dire, hein, c'est ça, le président tchadien, voilà, Idriss Déby.
Lutte pour combattre le terrorisme, oui. alors qu'ils sont là depuis 28 ans ou 30 ans.
Oui.
Et il ne faut rien.
D'accord.
Et l'Union africaine ne fonctionne pas, je veux dire, Moussa Faki Mohamed.
D'accord.
Comment vous analysez cette situation?
D'accord.
Est-ce que vous espérez une Afrique de demain
oui.
capable de dire telle élection ne se va pas,
oui.
tel président ne fonctionne pas, il faut refaire les choses? Comment vous analysez? Parce que moi, le Cameroun, moi, m'inquiète beaucoup.
D'accord.
Je ne
d'accord.
parle pas même de Congo, que j'étais en 1979. Il était la même place quand j'étais au Congo.
D'accord.
Il était la même place. Le Guinée-Équatoriale, il était la même place en 1979.
D'accord. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Alassane, pour votre appel. Appelez-nous, hein, chers auditeurs, 01 55 07 58 00, 01 55 07 58 00. Dites-nous ce qui vous a marqué hein, dans l'actualité africaine pour l'année 2018 et quels sont pour vous les principaux défis pour cette année 2019. Alors, Emmanuel Dupuis, on a entendu Alassane hein, qui est revenu sur le président camerounais Paul Biya, mais a parlé aussi des instances internationales, notamment de l'ONU. Est-ce que l'Afrique va trouver, selon vous, toute sa place dans le système multilatéral, notamment au niveau des Nations Unies, pour cette année 2019?
Alors, ce sera évidemment un des principaux enjeux pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la France va préside depuis ce matin le G7 et elle a l'ambition, en tout cas si on en croit les déclarations du président Emmanuel Macron, de revisiter le système multilatéral en le rééquilibrant. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à l'occasion du 73e anniversaire, la 73e Assemblée Générale des Nations Unies, où il a dit que le monde était déséquilibré parce qu'un certain nombre de voix manquaient
oui.
et qu'il y avait des espaces vides au sein du système onusien. D'ailleurs, ça a été rappelé par l'intervenant précédent. par rapport parfois à l'absence ou à la carence ou à l'insuffisante présence des agences onusiennes. Donc, bien évidemment, l'Afrique doit se faire mieux entendre à l'ONU. Il y a une certaine forme d'injustice, puisque les deux tiers des résolutions et des déclarations de l'Assemblée générale concernent le continent africain. Près de la moitié des casques bleus qui sont déployés dans le monde, 56% en l'occurrence, sont présents sur le continent africain. Donc, on voit bien que l'ONU est vraiment la structure ou l'instance dans laquelle le continent africain devrait avoir plus de représentativité au-delà des deux représentants qu'elle a de manière tournante à l'occasion des présidences biannuelles au sein du Conseil de sécurité, des 10 membres n'ayant pas le droit de veto. Donc bien évidemment, la question de la représentativité africaine se pose. Elle se pose à l'ONU, mais elle se pose aussi par rapport à l'émergence d'organisations subrégionales. Et de ce point de vue, l'unité africaine qui est pleine et entière depuis le 31 janvier 2017, avec le retour du Maroc après 33 années d'absence, avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale, donc qui a été lancée en mars dernier à Kigali, qui a été proposée en mars dernier à Kigali pour créer une vaste zone de libre-échange, donc comme son indique continentale, regroupant les 54 États africains, et bien évidemment avec le renforcement des organisations régionales qui ont une vraie réalité économique, la CEDEAO avec ses 700 milliards de PIB cumulés autour des 15 pays qui la composent, pèse sur la scène internationale. Donc pour répondre à votre question, vous avez raison de dire qu'en 2019, il y aura un effort à faire de part et d'autre, de part et d'autre de la Méditerranée, de part et d'autre de l'Atlantique, et bien évidemment en incluant les nouveaux acteurs que sont, comme ça a été évoqué précédemment, la Chine, mais non seulement la Chine, la Turquie, l'Iran, la Russie, faire en sorte que l'Afrique ait plus de capacité d'être entendu par rapport au sujet qui la concerne, le dérèglement climatique. On sait par exemple qu'il y a de nouveau une injustice climatique. 65% des terres arables sont sur le continent africain. L'Afrique pollue très peu et malheureusement, elle subit, comme beaucoup d'autres, mais peut-être plus que d'autres, les aléas climatiques. En l'occurrence, si on prend en compte que 85 millions de personnes ont dû quitter leur foyer sur le continent africain l'année dernière par rapport à l'effondrement des rendements agricoles, bref, ont été d'une certaine façon les premières victimes climatiques, du premier lot des réfugiés climatiques. On voit bien qu'il y a là un enjeu à ce que l'Afrique puisse être mieux entendue à la COP24, qui vient juste de se terminer à Katowice. Malheureusement, ça n'a pas été forcément le cas. Ou bien évidemment, dans les règlements économiques qui la concernent, on parle beaucoup de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, entre la Chine et l'Union européenne, mais on oublie qu'en 2020, il va falloir rénover les accords de Cotonou, les accords de partenariat économique, réunissant les 79 pays de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique avec les 27 pays de l'Union européenne. Donc il y a là un enjeu de plus égale répartition de la responsabilité et de la représentativité du continent africain.
Alors, Emmanuel Dupuy, vous avez évoqué lors de votre première intervention plusieurs élections à venir pour l'année 2019. Il y a aussi des élections présidentielles prévues aussi dans un autre pays qui est l'Algérie. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce sera une élection présidentielle avec ou sans Abdelaziz Bouteflika ? Et est-ce que vous pensez que dans ce pays, une nouvelle élection présidentielle va confirmer un ancrage démocratique ou au contraire une relative fragilité ?
Alors, je pense que la question algérienne se pose évidemment dans deux perspectives. La première perspective, c'est avec ou sans Bouteflika. Mais d'une certaine façon, que Bouteflika se représente pour un cinquième mandat ou ne se représente pas, je pense que ça ne change pas grand-chose. Il y a peu de chances que le pouvoir laisse filer sa capacité l'avantage qu'il a de gérer ce pays. Donc je pense qu'il y aura un enjeu à savoir si oui ou non il y aura un renouvellement post-Bouteflika, avec là aussi sans doute des signaux à attendre dans les prochaines semaines. Pour l'instant, il a été évoqué à l'occasion de la dernière Assemblée générale du FLN qui s'est déroulée il y a quelques mois, fin novembre dernier, qui a abouti au fait que le secrétaire général du FLN ait appelé le président de Bouteflika à se présenter. Je ne suis pas certain que ce soit un avis partagé par tout le monde,
oui.
au sein même des différents cercles de pouvoir. On sait que l'Algérie est un pays complexe, dans lequel les services de renseignement, dans lequel l'armée, dans lequel un certain nombre d'autres facteurs légitimement du pouvoir algérien, je pense notamment au patronat,
oui.
ne sont pas forcément tous au diapason. Donc la question va vraiment se poser de savoir si l'Algérie peut se permettre d'engager un cinquième mandat avec le président Bouteflika, alors que la situation économique la fragilise d'autant plus que le prix du pétrole est retombé de nouveau sous la barre des $50, ce qui évidemment pèse lourdement sur l'économie un petit peu monolithique de l'Algérie qui n'a pas su se diversifier au-delà de sa capacité de d'apport financier lié à son économie pétrolière.
Appelez-nous, chers auditeurs, 01 55 07 58 00, 01 55 07 58 00, à l'occasion du 1er janvier 2019, premier jour de cette nouvelle année. Appelez-nous pour nous dire ce qui a retenu votre attention dans l'actualité africaine pour l'année 2018 et ce que vous attendez et quels sont pour vous les principaux défis qui attendent le continent pour cette année 2019. Notre invité Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité, qui a l'habitude de décrypter l'actualité sur l'antenne d'Africa numéro 1. Emmanuel Dupuis, vous avez parlé de la RDC, la République démocratique du Congo. Est-ce que 2019 pourrait être l'année, même s'il est difficile de le dire à l'heure actuelle, est-ce que cette année 2019 pourrait être l'année de l'alternance dans ce pays en attendant l'annonce officielle des résultats? On sait que le camp de Martin Fayoulou, qui est l'un des principaux candidats de l'opposition, affirme être en tête du scrutin. En tout cas, c'est un pays qui fait face à une nouvelle page politique de son histoire.
Alors, de toute façon, il y aura alternance, puisque le président Kabila ne se représentant pas, il y aura de toutes les manières alternance. Maintenant, de quelle alternance parlons-nous? Il y a une opposition qui est une opposition désunie. Je rappelle aux auditeurs que l'élection en RDC suit une arithmétique qui, hélas, à sa propre logique, c'est un scrutin à un tour, et forcément, quand l'opposition est atomisée, c'est le cas avec Martin Fayoulou et sa coalition Lamouka d'un côté,
oui.
et le candidat de l'UDPS Tshisekedi de l'autre,
oui.
soutenu par Vital Kamerhe, il y a forcément une difficulté mathématique à pouvoir arriver avec une capacité de voix suffisante pour remporter le scrutin. Et pourtant, les derniers éléments dont nous disposons, évidemment vos auditeurs qui suivent l'actualité au quotidien savent bien que depuis un jour, il n'y a plus d'Internet. L'Internet a
oui.
été coupé par les autorités congolaises. Donc on a peu de remontées. En tout cas, on a beaucoup moins de remontées qu'il y a encore quelques heures.
Oui.
Néanmoins, vous avez raison de dire que la page semble bel et bien tournée.
Oui.
Et il semblerait que Martin Fayoulou, dans les différents bureaux de vote et dans
oui.
les différentes régions où le vote a pu se dérouler plus ou moins correctement, par rapport aux difficultés matérielles,
oui.
l'absence suffisante de machines à voter, l'insuffisante préparation des assesseurs, la difficulté de bien vérifier par rapport à la présence des observateurs et de la SADC et de l'Union africaine. Bref, il y a encore beaucoup de doutes et beaucoup de soupçons d'irrégularité ou en tout cas de manque de transparence. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que les Congolais sont fatigués, les Congolais veulent tourner la page depuis 2016,
oui.
depuis précisément octobre 2016,
oui.
le président Kabila ne devrait plus exercer son
oui.
autorité
oui.
et il n'est
oui.
qu'un président de transition. Donc la transition n'a pas commencé aujourd'hui,
oui.
elle a commencé au moment où il s'est agi de tourner la page
oui.
du président Kabila, sachant que la Constitution ne lui permettait pas de briguer un nouveau mandat. Maintenant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des enjeux auxquels devra faire face la RDC et n'importe quel
oui.
président, quel qu'il soit.
Bien sûr.
Premièrement, il y a la question de l'insécurité dans l'Est du pays,
oui.
avec là aussi une question qui nous ramène à votre précédente interrogation. La présence, l'efficacité, la légitimité d'une mission onusienne qui a commencé à la fin des années 90 par la MONUC, qui s'est poursuivie avec la MONUSCO actuellement, qui engage des frais tout à fait considérables, plus de 1 million d'euros par an, et quasiment 100 millions d'euros par jour, et qui engage plus de 20 000 casques bleus à l'est du pays, alors même que la situation sécuritaire continue à être détériorée avec un facteur d'insécurité supplémentaire, la réémergence de l'épidémie d'Ebola qui existait, était présente dans l'est du Congo depuis 1976, mais qui a eu un pic, une résurgence, c'est-à-dire une des raisons pour laquelle le vote est interdit ou le vote a été repoussé dans la région de Beni,
oui.
En l'occurrence, puisque là aussi la présence internationale est tolérée en ce qui concerne l'OMS,
oui.
Et n'est pas tolérée quand il s'agit d'observer des élections. Donc le premier enjeu sera de trouver ou retrouver la normalité concernant la RDC, qui est un pays structurant,
oui.
Qui est un pays de 80 millions d'habitants,
oui.
Dans lequel il y a des enjeux à la fois au niveau énergétique, bien sûr,
oui.
Mais
oui.
Surtout, et ça répond d'une certaine façon à votre question, sur le fait que la RDC est voisin d'un certain nombre de pays qui sont eux-mêmes facteurs d'insécurité ou victimes de cette insécurité, et que la stabilité de l'air dépend de la stabilité et de la sécurité dans les Grands Lacs,
oui.
Dépend de la mobilisation ou règlement du conflit en RDC qui s'est réallumé à partir de 2012, et bien évidemment, dont dépendra d'une certaine façon la bonne tenue du Scoria.
Très bien.
Ou encore une fois, des enjeux d'intégration économique, comme j'évoquais précédemment, avec la zone de libre-échange qui a été l'œuvre et
d'accord.
Qui a été proposée par le Rwanda.
Nous avons en ligne Arnold. Arnold, bonjour.
Oui, bonjour, mes meilleurs voeux. Pour...
Merci beaucoup Arnold, mes meilleurs voeux également pour vous, votre famille.
Merci. Donc moi j'ai appelé concernant le Gabon.
Oui.
Premièrement, je suis pas gabonais.
Oui.
J'ai juste simplement suivi
l'intervention des, enfin les vœux, oui, du président Ali Bongo.
L'allocution du président Ali Bongo. Moi, ce qui me choque sur nos présidents africains,
oui.
dans toutes leurs formes physiques,
oui.
Ces messieurs ont toujours tendance à conserver leur pouvoir,
oui, oui.
Sachant que c'est pas le pays, c'est-à-dire que le pouvoir c'est pas une famille qu'on dirige,
oui.
C'est un pays,
oui,
c'est un pays, c'est des milliers de personnes. Faut savoir ne pas prendre des gens en otage,
oui,
c'est-à-dire
oui.
Que Ali Bongo aujourd'hui prend toute une nation en otage,
d'accord,
avec son incapacité à gérer le pays,
d'accord.
Compte tenu de sa forme physique, je pense qu'il serait sage de lâcher le pouvoir et passer à autre chose.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il faut savoir, à un moment donné, dire que voilà, c'est bon, j'ai fait mon temps, je passe à autre chose.
D'accord.
Voilà, on ne peut pas prendre tout un pays en otage. C'est malheureux pour l'Afrique.
D'accord.
C'est malheureux.
Donc vous, ce que vous dénoncez, c'est que certains dirigeants ont tendance à s'accrocher au pouvoir.
Bien sûr, c'est parfait exemple de l'Algérie, en fait,
oui,
on va
oui,
dire.
Oui.
Hein
oui.
Donc on voit bien des messieurs qui sont en incapacité totale,
oui.
De gérer un pays, c'est-à-dire qui deviennent des étiquettes, des,
oui.
Autocollantes, en fait, qu'ils mettent là. Sous forme de dire, bon, on va diriger le pays avec lui,
d'accord.
Parce qu'il est incompétent, il est... Non, mais non, ils sont incompétents, ces messieurs.
D'accord. Est-ce que vous diriez, donc, pour l'année 2019, pour vous, le principal défi sur le continent, c'est la question de la bonne gouvernance, de la gouvernance, de l'alternance politique ?
Mais vous savez, ça a été toujours un problème en Afrique.
Oui.
Nous passons des siècles et nous avons toujours le même défi.
Oui.
C'est-à-dire que la mauvaise gouvernance en Afrique, c'est le grand facteur. C'est-à-dire que c'est le porte-malheur,
oui.
De l'Afrique. Nous ne savons pas où nous allons. Puisque la preuve en est encore, en 2019, nous voyons encore des présidents qui disent qui se croient tout permis,
oui,
qui disent,
oui,
qu'ils sont, oui. Capables.
Oui.
Mais c'est absurde. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, franchement, je sais pas si ces gens-là réfléchissent comme tout un chacun.
Oui.
C'est grave.
D'accord. Donc vous comptez par exemple sur les sociétés civiles, qu'elles s'investissent un peu plus dans le champ politique, qu'elles continuent à manifester, à s'opposer, mais, par exemple, à certains dirigeants.
Moi, je dis la société. Vous savez, la société civile en Afrique, elle est muette.
Il y a plusieurs quand même. Emmanuel Dupuis parlait par exemple de certaines organisations comme le Ballet Citoyen au Burkina Faso ou dans d'autres pays ou même la RDC. Hein, on sait qu'il y a des associations qui sont très 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 actives, hein, sur le plan politique.
Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ouais.
Mais ils ne sont pas actifs pour autant. C'est-à-dire que comme nous sommes ici par exemple en France.
Oui.
Hein, quand on voit que la société civile se lève, ils arrivent à décrocher quelque chose qui va dans leur sens. C'est-à-dire qu'en Afrique, c'est le contraire. Oui. Quand on se lève, il faut savoir que c'est la matraque, ou soit c'est la tuerie. Oui. Donc, c'est une société qui vit avec la peur ou la boule au ventre. Oui. Hein? Ils sont pas libres de s'exprimer. Moi, je suis congolais, je suis de la RDC.
D'accord.
Je suis de la RDC, mais vous voyez bien que comment le peuple africain a soif de la démocratie.
Oui.
C'est un peuple qui a soif de la démocratie. C'est un peuple qui veut aller au bout de ses rêves.
Oui.
Parce que c'est un peuple qui a besoin de vivre, c'est-à-dire que moi je suis jeune, je fais partie de la jeunesse africaine, j'ai toujours rêvé vivre en Afrique,
d'accord.
J'ai toujours rêvé, mais impossible, puisque nous avons des dirigeants qui nous matraquent, nous avons des dirigeants qui sont là à nous prendre en otage.
D'accord. Très très bien, merci beaucoup Arnold pour votre intervention, continuez à nous appeler 01 55 07 58 00. Alors Emmanuel Dupuis, hein, vous avez entendu notre auditeur Arnold qui s'interroge concernant le pouvoir, l'absence d'alternance politique, mais on observe quand même qu'il y a de plus en plus de manifestations, quand on regarde ce qui se passe par exemple en Tunisie où il y a des manifestations, mais aussi également au Soudan, est-ce qu'il y a quand même, on constate que les sociétés civiles sont quand même investies dans le champ politique. Et est-ce que l'année 2019 sera l'année des sociétés civiles investies dans le champ politique ?
Oui, moi je le pense, hein. C'est ce que j'évoquais dans mon propos initial. Je pense que l'année 2017, enfin, depuis évidemment un certain nombre de processus électoraux dans lesquels les sociétés civiles, les différentes formes alternatives de pouvoir, car je crois que c'est très important de prendre en compte le fait qu'en Afrique comme ailleurs, il y a des mouvements de fond qui sont en train d'être réalisés. Le processus de décentralisation va faire émerger un certain nombre de nouveaux leaderships politiques, avec des maires qui deviennent de plus en plus importants, car ils sont dotés de capacités d'action, et donc, d'une certaine façon, sont de plus en plus reconnus par leurs administrés et par les citoyens, comme des personnalités politiques pouvant impulser, pouvant impacter sur le processus décisionnel. Ce qui est en train de se passer en Europe avec le processus de remise en cause de l'hypercentralisation, et on peut prendre l'exemple de la France, est aussi une réalité en Afrique. Le processus de régionalisation, tel qu'il existe par exemple au Maroc depuis 2011, le processus de décentralisation dans les régions septentrionales maliennes par exemple, ou des innovations qui consistent à faire en sorte que, au-delà des frontières, je prends l'exemple du Burkina Faso, du Mali et du Niger, se créent des regroupements régionaux dans lesquels les élus locaux, les gouverneurs, les préfets ou encore une fois les maires reprennent l'initiative. Donc ça, c'est une forme de société civile institutionnalisée dont évidemment, il va falloir regarder avec beaucoup d'attention la capacité, non pas de nuisance, mais la capacité d'impulsion politique. Et puis évidemment, vous avez évoqué, et je suis d'accord évidemment avec ce qu'a dit votre auditeur, il y a une volonté, il y a surtout une réflexion à avoir sur l'alternance.
Oui.
Pas forcément la question de la gouvernance.
Oui.
Les institutions africaines et les constitutions africaines, si on les prend à la lettre, fonctionne bien.
Oui.
C'est la question de l'alternance.
De l'alternance politique.
La Constitution se limite à un article qui permet ou ne permet pas au président de se représenter. Je crois que c'est ça sur lequel il va falloir être très vigilant. Et puis, les sociétés civiles, forcément, seront à l'honneur en 2019 pour une raison simple, c'est qu'il y a une forme de contestation qui ne se fait plus de la même manière qu'il se faisait encore il y a quelques années. L'émergence des réseaux sociaux, la puissance ou l'installation de réseaux médiatiques, de télévision panafricaine, qui diffuse non seulement dans un pays, mais qui diffuse dans une sous-région, va forcément impacter, va forcément voir émerger des voix ou des visages nouveaux qui vont pouvoir influencer, au sens positif du terme, le processus politique. Et puis, vous avez évoqué la Tunisie. La Tunisie est un bon exemple, avec la révolution du jasmin en 2011, où on a vu une armée, finalement, être fidèle à sa mission, c'est-à-dire d'être une armée citoyenne qui permet la garantie de l'ordre public. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose que l'on va voir émerger de plus en plus avec la remise en cause de l'instabilité des années 90-2000 dans lesquelles les militaires choisissaient plus ou moins quelle était leur orientation politique. Je pense qu'en 2019, on a de plus en plus de conscience ou de conscientisation, si vous m'autorisez cette expression, qui fait que les forces de sécurité ne sont pas seulement l'apanage ou ne sont pas seulement à la seule utilisation du chef d'État et de gouvernement, tout simplement parce que les politiques, les militaires font aussi de la politique et donc ils ont une conscience citoyenne.
D'accord.
En un mot, je crois qu'en 2019, on va voir émerger, parce qu'il y a une forme de perméabilité avec les influences internationales, une conscience politique qui fait que beaucoup sortiront du jeu politique. Je prends un dernier exemple pour étayer mon propos, le fait que le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, s'exprime, s'est exprimé avec des mots forts lors de sa réception du prix Nobel. Il y a encore quelques mois, a rappelé qu'il y avait une forme d'inacceptable injustice dans son pays, qui est un des pays les plus riches du monde, mais pour lequel, évidemment, les responsables politiques ont failli et sont dans une forme de dédain absolu qui justifie le fait que la population doit pouvoir choisir son destin en toute conscience. Bref, des personnalités politiques telles que le prix Nobel de la paix ou d'autres personnalités qui émergent sur la scène internationale pourront davantage être entendues.
Alors, Emmanuel Dupuis, alors d'après plusieurs experts, l'autre défi aussi concerne la migration. Est-ce que, selon vous, c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur durant cette année 2019? Est-ce que des Africains vont continuer à venir sur le continent européen en prenant tous les risques? Et est-ce que les dirigeants africains ont pris conscience de la nécessité de stopper cette hémorragie, d'après vous?
Alors, oui et non. Alors, premièrement, les Africains migrent relativement peu sur le continent africain, ou en tout cas migrent relativement moins qu'il y a quelques années.
Sur le continent européen, vous voulez dire ?
Sur le continent du continent africain vers le continent européen.
Oui.
Il faut juste qu'on peut comparer les chiffres. Hein.
Oui.
En septembre 2015, 1,5 million de personnes ont traversé la Méditerranée du sud vers le nord, qu'ils viennent du continent africain ou évidemment du continent asiatique et notamment de sa partie occidentale, donc du Moyen-Orient. Les chiffres, évidemment, sont bien moindres ces derniers temps. Le centième migrant a traversé la Méditerranée l'a traversé en novembre. Donc on voit bien qu'entre 1,5 million et 100 000 personnes, il y a quand même un hiatus important. Le deuxième élément, c'est que la plupart des migrants sur le continent africain ne migrent pas vers l'Europe, mais migrent à l'intérieur.
À l'intérieur du continent, africain. Oui.
75% des migrations sont intra-africaines.
Oui.
Donc ça aussi, c'est une question qui impose une vision afro-centré de la question migratoire pour ne pas se laisser dicter des orientations européennes qui parfois sont émaillées d'une certaine forme de panique ou de peur ou d'insuffisante coopération, considérant le fait que l'Europe veut évidemment essayer de créer littéralement ou psychologiquement, intellectuellement un mur de par la Méditerranée. Et donc je crois qu'il y a ça a été confirmé lors du sommet du Nouakchott en juillet dernier, une volonté de s'approprier la question migratoire avec le leadership marocain, puisque Mohamed VI a été chargé par l'Union africaine de penser la question migratoire à l'aune de l'agenda 2063, donc du centième anniversaire de l'Organisation unité africaine, avec là aussi, sans doute, pour nous, Européens, un regard intéressé au sens propre du terme, avec des innovations africaines, la mise en place d'un office démographique africain qui n'existe pas au niveau européen, la mise en place d'un haut commissaire pour la question migratoire, que nous devrions peut-être envisager de créer au niveau de l'Union européenne. Bref, une vision africaine des questions migratoires qui dépasse très largement la seule dimension sécuritaire ou la seule dimension d'une approche trop sectaire et pas suffisamment inclusive, et avec là aussi des innovations qui sont liées de nouveau à la mise en place de processus régionaux. Aucun État africain, comme du reste aucun État dans le monde, ne peut faire face seul aux défis qui sont maintenant complexes, mais intriquement liée. La question de la sécurité est une question qui impacte sur la question du terrorisme, qui impacte sur la question de la grande criminalité.
Oui.
Et bien évidemment, la question des insécurités, environnementales, sont des facteurs aggravants de l'insécurité tout court. Et bien évidemment, un État seul ne peut pas y faire face. Donc, pour faire face à tous ces défis, et la question migratoire est exemplaire, c'est évidemment vers davantage de coopération subrégionale dans un premier temps, panne au niveau continental et panafricain dans un même temps, et bien évidemment, mais le tout, évidemment, n'a pas de forme de hiérarchisation avec des coopérations internationales.
Mmh. Justement, vous parlez de coopération, vous parlez de terrorisme, on a beaucoup parlé en 2018 du G5 Sahel. Est-ce que c'est une structure qui fonctionne de manière efficace, d'après vous, ou il faut qu'il y ait là aussi une meilleure coopération, coordination entre les États membres du G5 Sahel?
En tout cas, je crois qu'il faut qu'on change d'approche. Le G5 Sahel a été créé et lancé en 2014 avec une mise en place effective, malheureusement, que à partir de 2017, avec la mise en place de la force conjointe qui a été lancée en juillet 2017 avec le sommet de Monaco, d'ailleurs qui a été proposée de manière non exclusive, résumant ce que je venais de dire précédemment, oui. C'est-à-dire que pour faire face au terrorisme, la question et l'approche sécuritaire, tout comme sur la question migratoire, ne suffit pas. Donc le G5 Sahel en tant que tel ne suffit pas. Ce n'est pas seulement en mobilisant à raison de un bataillon, à raison de cinq forces régionales, en l'occurrence plus ou moins 5 000 hommes, c'est-à-dire au niveau d'une division par pays, que l'on va régler ce problème.
D'accord.
Je rappelle d'ailleurs aux éditeurs que la question de l'insécurité au Sahel répond à une logique implacable. Il n'y aurait pas plus de 1 000 insurgés, que ce soit des mouvements qui sont liés à la mouvance Daesh ou plus anciennement liés à Al-Qaïda, ou bien évidemment avec Boko Haram, alors qu'il y a actuellement 30 000 forces de sécurité qui gravitent, qui assurent la sécurité de la Mauritanie au Tchad. Évidemment, en y englobant aussi la force multinationale mixte qui lutte contre Boko Haram autour du lac Tchad.
Très
bien. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de soldats, ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas une question non plus financière.
Oui,
il y a
oui.
énormément d'argent
D'accord.
qui a été mis sur la table. Je termine oui. d'une phrase. Le G5 Sahel a eu une lente maturation, mais malgré tout, l'argent qui a du mal à être décaissé est malgré tout présente.
Oui.
L'Union européenne, la Banque mondiale, le PNUD, la France, l'Allemagne et un certain nombre de pays européens ont décidé de renforcer le G5 Sahel avec une alliance Sahel. C'est près de 9 milliards de projets d'investissement qui vont perler, si j'ose dire, sur le Sahel. Donc la question n'est pas financière, la question est liée à la volonté politique.
C'est le mot de la fin, volonté politique.
C'est un petit peu défaillante.
Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir participé à ce journal des auditeurs.
Merci
à vous, merci d'avoir participé à ce premier journal des auditeurs de l'année 2019. Merci à Simon qui réalisait cette émission. Continuez le débat sur notre page facebook.com/journal des auditeurs. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Je vous souhaite de nouveau une très très belle année 2019.